Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Binge Audio.
Le podcast Les Couilles sur la Table rencontre le podcast Camille. Épisode spécial sur le journalisme avec Alice Coffin. Salut Camille Regache.
Salut Victoire.
Camille est ma consoeur. On se voit tous les jours à la rédaction de Binge Audio et toutes les deux, on discute beaucoup de nos pratiques journalistiques. Et toutes les deux, on a adoré lire Le génie lesbien. C'est un essai d'Alice Coffin qui parle certes des lesbiennes, mais qui est surtout un grand essai sur le journalisme. Alice Coffin est donc journaliste et militante lesbienne. Elle a travaillé 10 ans au sein de la rédaction du journal 20 minutes. Elle est membre du collectif d'activistes La Barbe, qui dénonce avec beaucoup de joie, d'humour et de courage l'entre-soi masculin dans toutes sortes d'instances de pouvoir. Et elle a cofondé l'AJL, l'association des journalistes LGBTI. Et puis depuis juin 2020, elle est conseillère de Paris.
Dans Le génie lesbien, elle repense de fond en comble les bases du métier, cette obligation à la neutralité et à l'objectivité par exemple. Et elle pose la question suivante. Qui, aujourd'hui, a le droit et la possibilité de raconter l'actualité?
Alors on s'est dit qu'on allait interviewer ensemble l'autrice de ce livre, tant ce qu'elle pointe et dénonce nous concerne. En l'écoutant, vous allez comprendre comment la production médiatique, mais aussi ce qui fait aujourd'hui les critères de la bonne compétence journalistique, sont marqués par des stéréotypes masculins et hétérocentrés. Pourquoi tant de réticence dans beaucoup de rédactions de médias aujourd'hui à aborder par exemple frontalement les questions de genre et d'homosexualité?
Si le journalisme est en apparence un secteur paritaire, puisque la moitié des détentrices de la carte de presse sont des femmes, c'est comme partout dans la société, dans tous les secteurs. Les femmes y sont, sauf exception, moins bien payées, à des postes plus précaires, moins prestigieux. Et puis, plus vous montez dans les échelons hiérarchiques, et plus il y a d'hommes. Chefs de service, rédacteurs en chef, directeurs de la publication, sans parler des propriétaires des médias.
Alors, comme ce métier est mal connu dans son fonctionnement concret quotidien, on a commencé par demander à Alice Coffin, qui a aussi enseigné le journalisme, un petit exercice pédagogique. Elle va nous expliquer en quelques minutes comment sont choisies les informations qui seront publiées dans les journaux, à la radio, à la télévision. En fonction de quels critères est-ce qu'on choisit de traiter, c'est le mot qu'on utilise, ou non, une info?
Alors, il y a plusieurs biais par lesquels un pan de la réalité, du réel, va devenir labellisé comme information. Il se passe sur la planète des milliards de choses à chaque minute. Qu'est-ce que les journalistes vont repérer dans tout ce qui se passe autour de nous pour dire « Ah, ça, je vais faire en sorte que ce petit bout du réel-là, cet événement qui a surgi à tel endroit, devienne une information parce que j'en parle dans mon journal, dans mon émission. » Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Malheureusement, je crois qu'une des... Si je devais penser à la première, c'est de savoir est-ce que d'autres en ont parlé. C'est-à-dire, est-ce que d'autres médias ont déjà parlé de cette info-là et qu'on a plus tendance, en tant que journaliste, moi j'entendais beaucoup plus dans la rédaction la phrase « est-ce qu'on l'a ?» qui était une phrase très typique de journaliste, ce qui veut dire « est-ce qu'on n'a pas loupé une info ?» Et on réfléchit plus à « est-ce qu'on a l'info ?» Est-ce qu'on a, c'est-à-dire cette information que d'autres ont déjà donnée ailleurs, est-ce que nous on l'a prise en compte ou pas encore? Ou est-ce qu'il faut nommer, c'est comme ça que ça se passe, après une journaliste de la rédaction pour s'en occuper et écrire l'article en question. Donc ça, c'est les informations où on s'inspire d'autres choses. Et c'est d'ailleurs, moi, un des exercices auxquels j'ai été aussi confrontée quand j'étais en école de journalisme ou quand je faisais la période en spécialité télé. Le matin, on se réunissait autour des pages du Parisien, par exemple, pour dire bah, ça a été traité comme sujet, on va les illustrer. Et encore une fois, ce qui vaut comme info, c'est ce que les autres en disent. Dans beaucoup de rédactions, ça peut être ce que l'AFP, l'Agence France Presse, qui est une agence média. Moi, je suis frappée par le fait que ça soit encore très peu connu. J'enseignais aussi le journalisme à des gens qui n'avaient pas vocation à devenir journaliste, mais par exemple à travailler dans les métiers d'attaché parlementaire, de gouvernance, et même ne connaissaient pas du tout, alors que ça a un rôle si central. Quand on est journaliste, on connaît par cœur ce qu'est l'AFP, la façon dont ça fonctionne.
Pour expliquer comment ça se passe très concrètement, on a accès, quand on est journaliste dans des grosses rédactions, au fil de l'AFP, mais donc il y a une dépêche toutes les minutes quasiment. Et puis il y a des dépêches qui ressortent plus fort que d'autres, il y a des dépêches urgentes, il y en a qui sont prioritaires, et c'est en fonction de ça, il y a toujours quelqu'un chargé de vérifier le fil des dépêches AFP.
Tout à fait, et sachant que l'AFP, à des journalistes aussi qui font un travail. On a toujours l'impression aussi de penser ça comme une agence, comme ça, mais qui font aussi, pour certains, un travail absolument remarquable et de fond. Ce n'est pas seulement que de la production d'infos institutionnelles.
Puis, la deuxième chose peut-être qui est important de préciser aussi pour savoir comment s'est fabriquée l'information, c'est que c'est pas un journaliste tout seul dans son coin qui va décider que il va écrire son article et ça va être publié dans le journal. Ça passe par un système hiérarchique assez fort.
Ça passe par des systèmes hiérarchiques très forts, et ça, on le sait d'autant plus quand on est, comme moi je l'ai été, une journaliste qui s'intéresse à des sujets, je pense aux problématiques féministes, aux problématiques liées aux minorités, qui ne sont pas privilégiées par les rédactions. Et c'est moi, mais c'est d'autres, parce que j'enquête beaucoup sur ces sujets-là, et je continue à beaucoup en discuter avec l'ensemble des journalistes sur leur travail dans les rédactions, de taille moyenne, grande, petite. Et pour beaucoup... Quand on s'intéresse à certains sujets, c'est un combat. C'est un combat d'amener un sujet jusqu'au bout, jusqu'à sa publication, parce qu'on va avoir un ensemble de verrous qui vont se mettre en place. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une hiérarchie de dire oui à un ou une journaliste qui propose un sujet ? Ça veut dire le mobiliser pendant un certain temps. C'est des médias, mais c'est des entreprises. Hein. Donc, il s'agit de ressources humaines, de temps consacré par tel salarié, et pour quelle audience, et pour quel public. Toutes ces problématiques-là rentrent en ligne de mire. Et évidemment, y a certains sujets qui seront assez systématiquement refusés, ou pour lesquels il faudra vraiment se battre. Et je pense que ce qui se passe en ce moment... notamment dans les rédactions, c'est qu'il y a un petit rapport de force qui est en train de changer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus vous êtes nombreuses dans une rédaction à essayer de proposer un sujet et à pousser, plus ça va aider. Le problème, c'est quand il y a un isolement, et c'est encore le cas dans certaines rédactions, qu'il y a seulement une journaliste qui va proposer, qui va faire le forcing pour proposer, et je dis le forcing parce qu'elle est obligée de le faire, pour proposer des articles féministes. Et là, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est intéressant de voir que je pense... qu'en définitive, le plus gros danger pour qu'une information ne sorte pas, c'est l'autocensure des journalistes. C'est-à-dire, ce n'est pas ça la première chose, mais c'est le fait d'être parfois tellement découragé, épuisé, qu'on ait proposé un sujet une fois, deux fois, et puis qu'il ne rencontre pas un gros assentiment, que de baisser les bras et de se dire « bon, bah, je vais faire comme ils veulent, je vais faire ce qu'ils demandent ». Et ça, je pense que c'est la plus grande chose qui se passe. Et c'est pas tellement... Moi, j'entends beaucoup, dans un avis général qu'on peut avoir pour des gens qui connaissent pas le journalisme, des histoires de pression, de...
Mais du coup, quel est l'argument, en fait, qui est avancé quand on dit « bah non, ce sujet passe pas ». Par exemple, prenons le cas d'un sujet féministe. Qu'est-ce qu'un chef de hiérarchie, quelqu'un en haut de la hiérarchie, un chef va répondre en disant « on refuse son sujet parce que... » Et là, qu'est-ce qui a avancé, du coup, pour que ça ne devienne pas une information valable au sein du média ?
Alors, le plus gros argument que j'ai eu, et que je sais pas mal d'autres ont aussi, c'est pas du journalisme, c'est du militantisme. Donc moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup le droit à ça. Et c'est très intéressant parce que cette frontière-là, elle peut varier. Et c'est valable pour les frontières entre journalisme et militantisme, mais aussi pour d'autres objections qui peuvent être apportées. Par exemple, ça n'intéresse pas les gens, ou personne ne la connaît. Bon, bah ça va pouvoir être mouvant au fil du temps. Un sujet qui va être refusé à un moment, il va pouvoir être accordé à un autre. C'est une façon d'avoir conçu le territoire journalistique et de dire qu'est-ce qui est une info, qu'est-ce qui n'est pas une info. Et je prends un exemple. Moi, je souhaitais, quand j'étais journaliste à 20 minutes, au service médias et culture, toujours pointer lorsqu'il y avait des festivals, des événements où il n'y avait que des hommes qui étaient programmés ou sélectionnés ou lors d'une réunion politique. Ça me semblait du domaine de l'information, de dire tiens, bah, c'est une réunion ultra exclusivement masculine.
Pour dire...
De le placer là-dedans, mais j'étais même pas aussi ambitieuse. Je crois que j'avais déjà l'autocensure. Je savais que ça passerait pas du tout que ça soit l'objet d'un seul papier, mais au moins de le dire que ça vaut en ce qu'on appelle en accroche, en début d'article, pour le signaler, ou qu'à un moment ça soit dit parce que ça faisait partie de l'information à donner dans l'article. Ça m'était très clairement refusé. C'est-à-dire que j'avais des mails qui pouvaient me dire bah, « Non, Alice, là c'est complètement hors sujet, ça c'est du militantisme que de dire ça dans ton article. » Ça, c'était début des années 2010. Maintenant, l'AFP, l'Agence France-Presse, le mentionne très explicitement, voire va pouvoir en fait une dépêche. C'est devenu un sujet d'information de savoir les statistiques du Festival de Cannes en matière de dans sa sélection entre hommes et femmes. Ça, c'est devenu une info. Donc ça prouve bien le caractère extrêmement mouvant de ce qui est nommé information et de ce qui est rejeté hors du registre de l'information. Et je pense que c'est vraiment capital parce que c'est, je ne sais pas, en fait, la représentation qu'on a d'une rédaction est de savoir comme s'il y avait un absolu. Nous sommes co-créateurs, co-créatrices consommatrices en tant que journalistes de cette information-là. C'est nous qui décidons de ce qui est une info ou qui n'est pas une info. Et c'est un récit. Enfin, je veux dire, il y a un récit de l'information parce que sinon, bah, ça n'aurait pas tellement de sens. Je veux dire, si on avait la capacité de juste faire tenir tout ce qui se passe dans la planète, dans des colonnes de journaux, dans des reportages, ça serait un peu étrange. Le monde, le réel, a son existence. Nous, on est là pour le raconter. Et évidemment, qui dit récit, dit version d'un récit, dit subjectivité dans le récit et dit manière de l'écrire, donc dit choix. Ce qu'on appelle les choix éditoriaux aussi, et qui répondent effectivement à de nombreux critères. Et je pense aussi que pour qu'une info soit labellisée une info, ça tient parfois à rien.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Dans Le génie lesbien, tu dis que la compétence technique, le talent artistique, la performance physique, c'est des standards qui sont fabriqués par les hommes pour les hommes. En quoi, pour le journalisme, c'est la même chose? En quoi la compétence journalistique, c'est une compétence masculine qui a été enseignée?
Alors, la question de la compétence, elle est importante parce que je crois que c'est l'argument principal que j'entends lorsque j'adresse ou l'on adresse collectivement des reproches à tel ou tel milieu de n'être gouverné que par des hommes, en disant pour nous, c'est pas une question de sexe. Ils disent pas genre, ils disent sexe. C'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence. Vous pensez bien que si les personnes les plus on prend vraiment les personnes les plus compétentes, bon, il se trouve que c'est que des hommes. Ça, évidemment, qu'on va le retrouver dans le milieu journalistique, pas seulement pour disqualifier des femmes, mais aussi pour disqualifier un ensemble de personnes qui n'auraient pas les compétences journalistiques. Et c'est donc, ça veut dire en gros qu'ils seraient pas ce que l'on attend d'un exprès journaliste, pas une journaliste, et qui, c'est pas seulement le fait d'être une femme, ça peut être le fait de ne pas être blanc, de ne pas être d'une certaine classe sociale, de pas... Ça paraît exagéré et caricatural, mais je vous assure, ça l'est pas, en fait, parce que ça se traduit, c'est pas tant... Il pourrait y avoir du racisme, du sexisme, du classisme, ce que vous voulez, dans la façon...
Ça existe, hein, dans les médias, on est d'accord que les médias, c'est pas un monde à part.
Exactement, ça c'est évidemment, ça joue là-dedans, dans les discriminations à l'embauche, comme classiquement ailleurs. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je l'ai vu vraiment, parce que moi je travaille beaucoup à essayer d'amener certaines journalistes dans des rédactions à faire... pas des pressions, mais à inciter certaines journalistes que je connais qui occupent maintenant des postes en responsabilité à embaucher telle personne plutôt qu'une autre. Et je vois très souvent dans leurs hésitations, il y a « ouais, mais l'autre, il me semble plus solide, il me semble plus costaud, plus... » Et très souvent, c'est parce qu'ils reconnaissent dans la manière d'exercer le journalisme de telle ou telle autre personne quelque chose qu'effectivement, qui leur rappelle la façon dont on leur a enseigné le journalisme, le fait de rester dans certains certain clou, le fait d'exercer le métier d'une certaine manière, et très vite vous allez avoir, quand c'est des gens pas ça m'amuse parce que souvent si c'est des gens pas compétents, les gens pas compétents vont aussi être des gens qu'on va pouvoir dire incontrôlables, difficiles à gérer, tout un ensemble en fait de choses qui n'ont pas à voir avec, enfin en tout cas qui ne me sembleraient pas, si la compétence était le vrai critère, être contraire au bon exercice de journaliste, c'est-à-dire où je pense qu'il faut avoir une certaine habileté, une capacité à dire non, une capacité à s'opposer, une capacité à forcer les choses. Donc, qui fixe ces critères-là de ce qu'est un bon ou un mauvais journaliste? C'est évidemment selon la forme qu'on veut donner à la fabrication de l'information. C'est entièrement lié, en fait, quoi.
Mais en quoi, est-ce que tu as des exemples de en quoi il y a des compétences journalistiques qui sont vraiment marquées par des habitus masculins, par la masculinité ?
Oui, alors moi, là où ça me frappe le plus, c'est au-delà même d'exemples, c'est même une création d'un certain type de l'information que sont par exemple les chaînes d'information continue.
Ah, les chaînes d'information continue, toi tu dis que ce sont des excroissances de la masculinité toxique. Je trouve ça très juste et j'ai très envie que tu développes pourquoi. Donc les chaînes d'information continue, c'est bien BFM TV, CNews, qu'est-ce qu'il y a encore ? LCI, voilà, donc c'est des... Il y a assez peu de reportages dessus, il y a beaucoup de plateaux avec des gens sur ce plateau qui parlent. Et je trouve, pour décrire les chaînes d'infos en continu, peut-être que tout le monde en a déjà vu, mais il y a ce truc qui fait que c'est difficile d'éteindre la télévision parce que la façon dont ils racontent les histoires font qu'on est accroché comme ça et qu'on a l'impression qu'il va toujours se passer quelque chose de très urgent et de très important. Et en fait, il ne se passe rien, enfin, le plus souvent. Bref, pourquoi les chaînes d'infos en continu, c'est une excroissance de la masculinité toxique, et où est-ce qu'on voit que les compétences demandées sur ces chaînes sont très marquées par une certaine forme de masculinité dominante?
Bon, les chaînes d'information en continu, de BFM à CNews, c'est très important, parce que là aussi, pour raconter, si vous êtes dans une rédaction, la plupart des rédactions, moi c'était le cas à 20 minutes, il y a BFM qui est allumé en permanence, une chaîne d'info continue qui est allumée, c'est ça, je parlais de l'AFP ou du Parisien qui peuvent donner le ton, mais maintenant, ces dernières années, c'est aussi vraiment les chaînes d'info continue qui donnent le ton de ce que les autres vont aussi raconter. Donc on parle de quelque chose de fondamental dans la façon dont se construit l'information en France. Or, ce quelque chose de fondamental, moi j'estime, enfin c'est mon analyse, que ça a tout à voir avec la masculinité, avec ce qu'on appelle même la masculinité toxique, c'est-à-dire beaucoup de comportements qu'on enseigne, qu'on inculque aux petits garçons, qui font par exemple que les petits garçons se sentent plus autorisés que les petites filles à prendre la parole, surtout et n'importe quoi, à s'exprimer même si ils n'ont pas spécialement quelque chose à dire, ou que, devenus hommes, ils déploient tout ce qu'on peut appeler le man-trupting, qui consiste à interrompre systématiquement une interlocutrice, même si ils n'ont pas une bonne expertise du sujet, et à se sentir autorisés à occuper l'espace. Ça, c'est très basique ce que je dis, enfin vraiment l'occupation de l'espace par les petits garçons, par les hommes, c'est quelque chose qui est recherché, admis. Eh bien, les chaînes d'information continue, elles fonctionnent exactement là-dessus. C'est-à-dire, puisqu'elles doivent sans arrêt renouveler leur plateau, elles sont là 24 heures sur 24, donc il faut renouveler, il faut inviter de nouvelles personnes sans arrêt. Pour ça, elles choisissent d'aller vers, elles ont besoin de gens qui n'ont pas trop de scrupules, qui sont tout à fait à l'aise à venir s'exprimer sur tout et n'importe quoi, à prendre la parole très aisément, même sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas très bien. Et bien ça nous rappelle beaucoup l'attitude des hommes, justement, dans des conversations à caractère plus privé et hors système de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est étudié tel quel, pour dire, quand même, et moi je passe mon temps à publier des photographies de plateaux de chaîne télé, de BFM à LCI, en passant par France TV Info, où il n'y a que des hommes sur le plateau. Les arguments avancés confirment cette théorie-là, pour moi, que c'est vraiment des excroissances de la masculinité toxique, parce qu'on dit, tu comprends, les femmes, elles refusent quand on les appelle, les hommes, ils disent oui tout de suite, les femmes, elles se sentent pas légitimes, elles pensent qu'elles peuvent pas venir, moi, tous les mecs me disent oui tout de suite, dans le meilleur des cas, je vous dis ça, parce que souvent, comme excuse, il y en a pas, c'est genre, écoutez, je fais ce que je veux avec mon plateau, et puis voilà. Et peu importe, les hommes et les femmes, ils voient même pas le problème. Mais pour celles et ceux qui voient très bien le problème, et il y en a quand même pas mal, ils vont arguer que c'est problématique sur les réticences des femmes. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, heureusement qu'elles ont ces réticences-là. C'est-à-dire que, encore une fois, si on veut voir de quel côté devrait pencher l'humanité, allons voir du côté des femmes plutôt que du côté des hommes. Et au lieu de dire, il faut, et souvent, c'est très souvent ce qu'on dit, il faut que les femmes apprennent, soient formées, à être plus sûres d'elles et à dire oui à n'importe quel moment. Les mecs font comme ça, donc nous aussi, on doit faire comme ça. Moi, je ne crois pas qu'on doit faire comme ça. Parce qu'en faisant comme ça, on encourage justement ce système de l'information-là. Et en fait, elles vont toujours venir s'y cogner. On fait comme si c'était anodin, comme si c'était un hasard que tiens, les femmes, elles osent pas y aller, les hommes, ils osent y aller. Mais elles n'ont aucune chance là-dedans. C'est-à-dire que le système, il repose là-dessus. Il va pas changer pour ça. Il repose sur le fait de produire de l'info où on parle de n'importe quoi, où on est très sûr de soi, où on est capable d'exprimer un point de vue en 3 secondes, bah, tout ce qui crée de manière plus générale dans la société de lourds dysfonctionnements, des mécanismes de domination, des mécanismes où on ne prend pas le temps d'expliquer, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à la masculinité, quoi, qui a un lien absolument direct et que c'est donc bien logique que les femmes se retrouvent exclues de cette sphère-là, puisqu'elles ne correspondent pas à ces critères qui sont ceux de la compétence pour les choses de la chaîne d'information continue, par exemple. Ça, c'est être compétent pour une chaîne d'information continue. Être compétent, être validé pour venir sur un plateau, il faut développer, avoir certaines facultés qui sont, pour moi, celles de la masculinité.
Donc, l'assurance, le fait aussi de parler sans beaucoup d'émotions, par exemple, là où on oppose... Enfin, il y a plein de paragraphes dans ton livre et d'analyse sur ce côté émotionnel-là. Un bon journaliste, c'est aussi quelqu'un qui sait garder de la distance émotionnelle, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne montre pas ses émotions. Et ça, je trouve que c'est très frappant, par exemple, quand on regarde le journal télévisé, puisque la plupart des informations sont dites avec la même voix et le même ton, qu'il s'agisse de chute de neige, de la rentrée des classes, de « il fait beau », de « les allocations de rentrée scolaire », de je sais pas quoi, c'est tout dit sur le même ton. En fait, tu expliques que le côté émotionnel, c'est évidemment très marqué par quelque chose qui est qualifié comme féminin, et donc que ça aussi, en fait, c'est une façon dont le genre s'imprime sur les pratiques journalistiques, c'est-à-dire qu'on va valoriser le côté rationnel, détaché, froid, enfin tout ce qui est du côté de la masculinité, en fait, dans le traitement de l'information.
Absolument. C'est vraiment... Et au-delà de ça, on pourrait... Alors, tout ce qui est côté de la masculinité, tout ce qui est côté plutôt de l'occidentalité, si on peut dire, de comment on a été formé plutôt en Occident ou en France aussi, dans l'esprit des Lumières, à avoir justement à raisonner avec un cerveau, une raison. Et moi, ça me marque beaucoup parce que quand on est capable d'avoir un regard extérieur, je citais un exemple récent de l'actualité, les réactions à l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Je crois que pas mal de Français et Françaises ont dû peut-être voir une séquence où il y a un Van Jones sur CNN, un des commentateurs politiques de CNN, qui est en larmes et tellement il est soulagé par l'éviction la victoire de Joe Biden. Et ces larmes sur un plateau, elles sont importantes en fait, et comme si c'était pas, ça faisait pas aussi partie des capacités de réaction et de penser que tout d'un coup, parce que si on est sur un plateau télé, parce qu'on s'exprime dans un journal, on n'agirait plus en tant qu'être humain, c'est un mensonge déjà. Donc c'est déjà créer de l'artificialité dans la façon dont on va raconter l'information. C'est déjà se mettre dans un moule, dans une certaine forme, revêtir un certain costume qui, à mon avis, est fortement nuisible et toxique sur la façon de raconter l'info, d'une part. Donc c'est mauvais pour le journalisme, et puis d'autre part, a tendance à exclure tout un nombre de personnes qui, effectivement, ont des réflexes différents, des tempéraments, des comportements différents dans leur vie. Et oui, de fait, ça exclut beaucoup également les femmes de ces sphères-là ou de ce que serait le bon journalisme. Mais ne pas prendre en compte qu'il y a de la subjectivité, qu'il y a de l'émotion, c'est aussi une machine à broyer les capacités de révolte, je pense, parce que c'est aussi avaliser le pouvoir, c'est-à-dire avaliser la capacité de réagir de manière tout à fait neutre, non émotionnelle, à toute information. C'est pas possible. Je veux dire, ça veut dire que jusqu'où, pourquoi justement on est capable de s'émouvoir, parce qu'en fait, sur ce journaliste qui réagit en pleurant à la victoire de Joe Biden, parce que là, en France, ça a été avalisé que Donald Trump, c'est le mal. Ça, c'est pas bien. Donc, ah bah oui, mais ça, c'est normal. Mais il y a d'autres choses. Et moi, je suis d'accord qu'on peut dire Donald Trump, c'est le mal ou c'est pas bien, bien sûr. Ou pour le dire de manière un peu plus articulée, c'est le summum d'un certain rapport de domination, pouvoir et d'écrasement des autres par une personne ou par un pouvoir. Mais ça, ce mécanisme d'écrasement des autres par une personne ou par un pouvoir, mais tous les jours, ça arrive en France. Tous les jours, en fait, dans les journaux télévisés, on nous raconte aussi certaines prises de position de chefs d'entreprise, de certains ministres du gouvernement, de certains qui demanderaient à avoir une réaction bien plus virulente, empathique, en colère. Et comment ça se fait qu'on n'y a jamais le droit? Et je pense que si on apprend ça au journalisme, c'est aussi parce que c'est une manière de préserver le pouvoir. Hein. En définitive, c'est quand même ça. C'est comme quand on leur apprend, moi ça me frappe beaucoup, parce que ça participe aussi de l'émotion, à toujours mettre une distance critique dans ce qu'ils disent, par exemple, exemple très concret, dans leur titre. Par exemple, si vous avez un événement raciste, sexiste qui survient, ils ne vont pas dire attaque raciste, attaque sexiste, ils vont dire attaque jugée raciste ou attaque sexiste selon les réseaux sociaux ou selon telle association.
Taxé de sexisme.
Taxé de sexisme, c'est sans arrêt. C'est vraiment des mots qui reviennent assez systématiquement, voire moi quand j'écrivais en toutes lettres, dans un titre, des mots racistes, sexistes, homophobes, on me les retirait en me disant « Tu as quelqu'un qui a dit ça ? Pourquoi ? Est-ce que j'ai quelqu'un ou une asso ou un autre compte Twitter à citer ? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas ? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas le dire ? Et je crois que ça, ça a à voir précisément avec la capacité, parce que qu'est-ce que c'est que le sexisme, de nommer le pouvoir ? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le sexisme et, ou le racisme en définitive ? C'est une prise de pouvoir de certains sur d'autres. C'est vraiment à la base des choses de fonctionnement humain. Et que les journalistes ne soient pas capables de voir ça, veulent dire qui se mettent d'un certain côté du pouvoir et de sa préservation, en fait. C'est toujours c'est des rapports de pouvoir. Hein. Les rédactions sont au sein des rédactions, on a des rapports de pouvoir entre des journalistes qui essayent de résister à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais qui en sont souvent évincés, du coup. Alors, la question de la neutralité, moi, elle m'intéresse depuis très longtemps parce que je pense qu'elle est au cœur de beaucoup de problématiques qui ne concernent pas que le champ journalistique, hein, qu'on va voir à l'université, qu'on va voir dans le milieu politique, mais qui sont très intéressantes en journalisme parce que ça combine deux choses. Il y a l'histoire de la neutralité et il y a l'histoire de l'objectivité. Et ça rencontre deux choses. Et je pense, même pour l'ensemble de la population, mais aussi pour ce qu'on peut nous enseigner en école de journalisme et autres, ça paraît très spontané, on va dire, ah oui, ben, un journaliste doit être objectif. Ça paraît aller de soi, en fait, comme si on faisait une équivalence.
Au moins neutre.
Ou neutre, voilà. Oh, mais il n'est pas neutre. Et au contraire, ça serait très mauvais si on dit « Oh, mais lui, il n'est pas neutre ». Donc ça le disqualifierait en tant que journaliste. C'est vraiment la disqualification immédiate d'un journaliste. Ça serait de dire « Il n'est pas neutre », c'est vraiment le mettre au banc de la profession, s'il n'est pas neutre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de « Il n'est pas neutre », »,« Elle n'est pas neutre ». Mais qui est neutre ? Moi, c'est vraiment la question que je pose.
Justement, qui est neutre ?
Alors, bah, qui est neutre ? Il y a une réponse assez simple. C'est qu'il y a certains qui s'arrogent, en fait, le monopole de la neutralité, à qui on va ne jamais demander des comptes, qui ont le droit de traiter tous les sujets, parce qu'eux, ils ne seraient pas spécialement concernés. Alors, il se trouve que très souvent, ces personnes-là sont, en gros, des hommes blancs, hétéros, et on pourrait un peu multiplier les qualificatifs. Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très souvent, cet argument de la neutralité, on va le brandir sur un ensemble de sujets que, du coup, on va pas très souvent traité. Par exemple, si je reprends l'exemple du féminisme, mais on peut prendre l'exemple du racisme, on va dire...
Toi, dans ton livre, tu prends l'exemple du mariage pour tous.
Oui.
Voilà, ça c'est... Ou de la PMA, par exemple, de l'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes. Oui. Qui est neutre pour traiter ces sujets ? Qui va être considéré comme neutre ?
Bah,
les mêmes.
Bah, quelqu'un qui ne sera les pas, hommes. En fait, dit concerné. C'est vraiment la chose, qui n'aurait pas un vécu. Donc, sûrement pas les lesbiennes. En tout cas, moi, on m'interdisait de le faire, hein, parce que j'étais explicitement, ouvertement lesbienne. Je ne pouvais pas parler de ces sujets-là. Donc, de préférence, et de fait, ça se retrouve sur les plateaux, on avait des plateaux entiers d'hommes en train de discourir de la PMA. Mais c'était la même chose au temps des discussions dans les années 70 sur l'avortement. C'était les hommes, parce que sinon, bah, les femmes, vous comprenez, elles sont complètement biaisées. Ça les concerne de bien trop près pour qu'elles puissent avoir un point de vue neutre sur cette information. Mais ça se retrouve dans énormément d'autres exemples. C'est-à-dire que je cite dans le livre une réflexion à ce sujet de Siam Asbak qui explique bah, sur la colonisation. Ah bah non, le journalisme arabe, bah non, il n'est pas neutre sur la colonisation. Alors que le journaliste blanc, bah bien sûr, il est neutre sur la colonisation. Donc en plus, ça se complexifie, parce que ça veut dire que c'est pas juste de dire tu n'es pas concerné, c'est tu n'es pas d'un certain côté du sujet, et en gros, très souvent du côté de ceux qui auraient à revendiquer contre ce sujet-là. Donc c'est vraiment, moi je trouve que l'argument de la neutralité, il est terrible, et il est terriblement compliqué à déconstruire parce qu'encore une fois, ça paraît aller de soi. Et c'est ça qui m'intéresse aussi à expliquer, peut-être essayer d'expliquer, parce que je comprends qu'on puisse se dire, que ça puisse aller de soi, se dire oui, mais attention, quand t'es journaliste, c'est quand même normal de pas vouloir influencer une personne ou de pas vouloir de traiter ton sujet bien. Je comprends que les lecteurs, les lectrices puissent plutôt avoir ça comme ça, comme avis spontané. Et là, je pense qu'il y a une confusion, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand on est journaliste, moi, ça ne m'empêche pas, ce n'est pas parce que je peux être concernée par un sujet, et plutôt, du coup, moi, je trouve bien mieux le connaître et avoir des sources et un carnet d'adresses, parce que quand on parle de la PMA, bah ouais, ça m'intéresse particulièrement, mais du coup, je l'ai étudié depuis très longtemps, donc je vais avoir les très bonnes infos à donner justement à mon lectorat. Je vais au contraire être bien mieux informée que quelqu'un de pas concerné. En revanche, ça ne veut pas du tout dire que je ne vais pas faire extrêmement attention à ce que j'écris, vérifier mes informations et ne pas... Je crois qu'il y a une confusion entre neutralité et objectivité et le fait de ne pas raconter n'importe quoi et de ne pas inventer des informations. Et il y a une confusion en fait aussi entre les différents types de journalistes. Parce que bien sûr que oui, qu'il y a des différences entre écrire un éditorial, là où on va prendre un temps engagé, faire un reportage, faire une enquête, tout ça peut se décliner. Mais je ne crois pas que mettre au cœur de notre métier cette question de la neutralité et de l'objectivité fait avancer les choses.
Ça fait déjà du moins bon journalisme, oui. Probablement. Enfin, c'est ce que tu dis. Ça prive en fait. Ça nous prive de tout un tas de réflexions qui pourraient nous amener à faire des papiers, des enquêtes, des podcasts et tout ça plus riches en fait. D'assumer et juste de réfléchir à quelle est notre position par rapport à tel ou tel sujet. Ou comment est-ce qu'on peut être biaisé par rapport à tel ou tel sujet. Par exemple, c'est vrai que j'imagine que plein de journalistes hétérosexuels qui couvraient la manif... le mariage pour tous ou la manif pour tous et tout, ils faisaient comme s'ils n'étaient pas concernés en fait du tout par ça. Alors qu'en fait, pour tous les sujets, tout le monde est concerné.
Mais bien sûr, tout le monde est concerné à un point de vue sur tel sujet. C'est-à-dire, ne se situe pas à tel ou tel point de vue. Mais il y a certains points de vue qu'on va exclure et pas d'autres. Et pourquoi c'est très dangereux, cette question de la neutralité? C'est très dangereux comme tous les mythes, comme tout ce qui n'existe pas. Parce que du coup, c'est super compliqué à déconstruire. Or, ça n'existe pas. Cette histoire de neutralité, elle a été complètement inventée. Je veux dire, il n'y a pas de personne neutre par rapport à un sujet. On est tous des êtres humains et tout ça. Il faut toujours beaucoup réfléchir dans ces cas-là. Quand il y a quelque chose qui sent le bobard comme ça et à se dire, en fait, ça n'existe pas, qu'est-ce que ça vient cacher alors? Alors, pourquoi ça semble si important? Pourquoi on a mis ça au cœur? Et ma réponse, ça serait évidemment pour des questions de territoire et d'évincer certaines personnes du métier et de faire en sorte que seuls certains soient habilités à raconter l'ensemble des récits, à raconter le monde tel que eux le voient.
C'est ce que tu dis dans le livre, tu dis qui a le privilège, et tu mets bien le mot privilège, de pouvoir raconter toutes les histoires de tout le monde. En gros, c'est ça qui se joue, c'est qui a le droit de raconter le monde. Et ce que tu expliques dans le livre, c'est qu'en fait, on part du principe que les personnes qui sont dans des minorités, quelles qu'elles soient, n'ont pas ce pouvoir-là. On leur enlève la compétence, la légitimité et la capacité à donner des informations, des faits vérifiés et autre chose quand même d'un point de vue pour raconter le monde.
Ouais, tout à fait. Alors que vraiment, mais là, c'est important de le préciser, je crois qu'au contraire, on n'est pas plus attentif aux fondamentaux du journalisme qui, pour moi, ne sont pas les histoires de neutralité, mais sont les histoires de vérifier l'information, de parler avec beaucoup de personnes, de faire attention à ce que mon article soit écrit correctement pour qu'il soit facilement lu. C'est ça, il y a des facultés pour être journaliste.
D'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétences.
Voilà,
c'est ça, il y a plein de compétences.
Mais bien sûr,
ça
n'est pas la même chose que de faire d'autres boulots et ça nécessite effectivement
une formation, une réflexion, un encadrement.
Tout à fait. Mais encore une fois, moi, je ne les place pas au même endroit. Et je crois qu'au contraire, ces nécessités-là, ces facultés-là qui sont si importantes, je n'y fais jamais autant attention que quand je vais parler d'un sujet qui me concerne. C'est-à-dire parce que je sais, et je vous assure que tous les journalistes qui sont concernés, s'ils vont étudier un truc, ils vont être d'autant plus vigilants parce qu'ils savent qu'on va pouvoir leur faire le reproche, en fait, de cette histoire de ne pas être neutre. Donc, ils vont être encore plus scrupuleux que scrupuleux sur ce qu'ils écrivent quand ils sont concernés par le sujet, quand elles le sont. Quelque chose de très humain, en fait. Donc, je crois qu'au contraire, ça offre des garanties sur le BABA journalistique que de confier souvent ces sujets-là aux personnes concernées.
En demandant aux journalistes d'être neutres, ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait, on leur demande aussi de ne pas avoir de caractéristiques personnelles, de caractéristiques de leur identité. Tu ne peux pas être une femme, tu ne peux pas être noire, tu ne peux pas être lesbienne, parce que du coup, tu deviens différent et donc, du coup, tu deviens non neutre. Les médias, en fait, en faisant ça, en demandant ça à leurs journalistes, ils ont aussi, ça, ce que tu expliques dans le livre, ça a pour conséquence leur incapacité aussi à verbaliser, à décrire le réel en fait, et à décrire les minorités elles-mêmes et à dire telle personnalité politique n'est pas hétéro, telle personnalité est racisée, donc ça change quelque chose dans son rapport aux autres, dans sa position sociale. Ce que tu dis aussi est très fort dans le livre, tu dis que les médias sont ceux qui verrouillent le placard en fait. Comment est-ce que les médias en pratique laissent des personnes dans le placard ou empêchent d'autres personnes d'en sortir?
Ouais, alors cette histoire de verrouiller le placard, ce qui veut dire, hein, le placard, c'est le fait de, quand on dit les homosexuels, les gays, les lesbiennes, qui restent au placard, c'est celles et ceux qui ne révèlent pas publiquement qu'ils sont gays ou qu'elles sont lesbiennes. Donc ça vient d'un terme anglais, le closet, où on dit rester au placard et à l'inverse, faire son coming out ou sortir du placard, c'est dire publiquement qu'on est gay ou qu'on est lesbienne. Et il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de personnalités publiques qui refusent, qui ne disent pas qu'ils sont gays ou qu'elles sont lesbiennes, et qu'il me semble que les journalistes ont une grosse responsabilité là-dedans, à savoir qu'elles verrouillent effectivement les portes de ce placard-là, parce que très souvent, alors il y a des personnalités publiques qui ont personnellement pas envie de le dire pour X raisons, bon ça, voilà, on peut en penser, moi j'en pense des choses, mais c'est pas le sujet, et puis il y a les journalistes qui vont renforcer ça, parce que très souvent, ils s'appliquent eux-mêmes une censure pour ne pas le dire, alors qu'en face, finalement, ça pourrait tout à fait passer, en fait, qu'on n'aura rien demandé de spécial, mais qu'ils pensent que c'est un gros mot, en fait, qu'il faut surtout pas le préciser, pas en parler. Et ça, on le voit dans beaucoup de cas. On le voit dans les cas où c'est des personnalités lesbiennes, par exemple, complètement out, mais ils vont penser qu'il ne faut pas du tout préciser qu'elles sont lesbiennes, que ça ne vaut pas comme information. Ça m'a frappé, par exemple, l'élection d'une mère femme noire lesbienne à Chicago. Première fois à la mairie de Chicago, Lori Lightfoot, ce n'était pas une info au début. Ce n'est pas une info, il a fallu que d'autres pointent, des militantes ou d'autres journalistes disent « Attention, pourquoi vous ne le précisez pas qu'elle est lesbienne ?» Ça, première chose, en pensant que ça ne fait pas partie de l'information, donc même quand elles sont sorties du placard, on ne le dit pas, on le cache. Cas plus fréquent, des cas où les personnalités ne l'ont pas vraiment encore dit, ne s'expriment pas tout à fait, et les journalistes vont verrouiller encore plus ce placard. Comment ? Notamment parce qu'ils ont un regard qu'on appelle hétérocentré, ça veut dire que pour eux, le monde se compose d'hétérosexuels. Et que ça veut dire que, par exemple, quand ils font des interviews avec une personnalité, avec une célébrité, si c'est une femme, ils vont te demander « Et les amours, alors, vous avez un compagnon en ce moment, un amoureux, un petit, une petite chérie ?» Et ça, c'est super dur, en fait. Alors que d'introduire, ne serait-ce que d'introduire la possibilité d'une question différente, et je vous parle notamment des cas où le journaliste sait très bien que la personnalité publique en face, elle est lesbienne, qu'elle ne l'a pas dit pour l'instant, mais typiquement, elle pourrait peut-être l'amener à le dire en posant sa question de manière juste un peu plus ouverte. Et c'est un exemple infime, mais ça montre à quel point c'est hétérocentré. Et puis, il y a encore d'autres cas où c'est vraiment, il y a des confusions, en fait. Il y a un traitement différent, en gros, entre ce qui relève de la vie privée pour une personnalité hétérosexuelle ou une personnalité gay ou lesbienne. Un bon exemple de ça, c'est le traitement dans Closer de Florian Philippot, il y a quelques années, alors qu'il était numéro 2 du Front National. Closer, dans un de ses numéros, a fait reportage, une paparazzade, comme ils font sur des dizaines de célébrités, des centaines au cours de l'année, et a montré Florian Philippot avec un homme en week-end, avec plein de photos de lui et cet homme-là. Et alors là, la plupart des journalistes français, que ça aille de représentants de l'AFP, du Monde, de l'Obs, bref, se sont élevés en disant scandaleux, atteinte à la vie privée, c'est la fin de tout. Enfin, vraiment, c'était vraiment vu comme une catastrophe. Et toutes les semaines, et on peut trouver effectivement que les tabloïds, que la presse people, qui a énormément de choses à redire, ce n'est pas le sujet. Mais tous ces gens-là, et je parle de Christophe Barbier à l'Express, à Belle Mestre au Monde, enfin vraiment un ensemble de personnes. Toutes les semaines, ils ne prennent pas leur plume pour dire c'est scandaleux ce que fait Closer. Ils le font parce que, Florian Philippot, il s'agit d'homosexualité. Donc, ils introduisent un critère différent. Et qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans ? Ils le font presque comme si c'était aussi un élément de dévalorisation, d'infamie pour Florian Philippot, que d'être gay. Donc, c'est ça qui nous amène à penser avec ce biais-là. Or, je ne vois pas pourquoi il y a vraiment des différences à faire entre personnalité hétéro ou gay ou lesbienne. Deux, l'article de Closer sur Philippot, mais ça vaut pour dans d'autres cas. Il prenait soin de dire aussi qu'il y avait une importance, que ça avait un sens, en fait, que Philippot soit gay si on voulait comprendre les mécanismes du Front National. Et ça, ça a été raconté après par Raphaël Baquet, journaliste au Monde, qui a dit que pendant des années, elle n'a pas pu, finalement... C'était compliqué d'écrire qu'au Front National, il y avait beaucoup de responsables qui étaient gays, alors qu'évidemment que ça avait une incidence sur leur façon de faire de la politique, leur rapport avec la Manif pour tous, qui n'était pas super clair, en fait. Ils n'y allaient pas, par exemple, contrairement à l'UMP à l'époque, ou... Mais comme on était tellement terrifiés de le dire, on n'en parlait pas et on ratait tout un pan de l'information, d'une part. Et puis, du coup, on fait comme si ça n'existait pas, ce qui incite les gens, effectivement, à rester au placard. Et du coup, ne pas nommer, c'est invisibiliser, donc c'est participer à maintenir toute une partie des gens au placard ou faire comme si c'était très sulfureux encore.
Oui, c'est fabriquer un monde complètement artificiel où la majorité des gens seraient des hommes, où la majorité des gens seraient des blancs et où la majorité des gens seraient... tout le monde serait hétérosexuel, en fait.
Mais oui, c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que de pas... Et ça, les plus belles exemples de ça sont les études des services de nécrologie des journaux. Donc, les services nécrologie, c'est là où on fait les biographies des gens qui sont décédés. Et si on les prend, c'est là où on voit vraiment que les journalistes créent un faux monde qui n'existe pas, parce qu'on aurait l'impression, je vous assure, si on fait le décompte des nécrologies, il n'y a que des hommes blancs, en fait, sur cette planète, puisqu'il n'y a que eux qui meurent, ou alors que tous les autres sont immortels. Mais c'est vraiment curieux. Et ça montre bien qui a le droit à l'information, qui a le droit d'avoir son nom, sa photo dans le journal, et comment, du coup, à partir de ça, c'est une réalité complètement fausse. C'est quand même un comble pour les journalistes qui sont censés rendre compte du réel, de le déformer à ce point-là et de créer une réalité complètement artificielle.
À partir de tous ces constats, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis très attachée au pragmatisme et tout, de savoir, OK, quand on est journaliste, par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle démarche vous paraît salutaire et indispensable à faire ?
Alors moi, je vais donner les miennes. Et effectivement, je suis d'accord, c'est très important, pas seulement d'être dans un constat que c'est grave, en fait. Hein. Moi, je pense qu'on parle de tout ça et c'est très important, mais ça a des conséquences gravissimes sur la société française. Le fait qu'il y ait, de telles catastrophes journalistiques, une telle façon de fonctionner dans les rédactions, il faut vraiment un effort de la part des journalistes, et individuels et collectifs. Alors, moi, mes voix ont été de passer aussi par des voix de marge, en fait. De dire, puisque c'est compliqué... Une fois qu'on l'a fait dans une rédaction, et ça je le recommande quand même, première étape, d'essayer, courage à toutes celles, tous ceux qui le font, de lutter au sein de leur rédaction, de lutter face à leur hiérarchie, voire d'essayer d'y accéder pour faire changer les choses. C'est dur, c'est usant, ne restez pas trop longtemps parce que ça va être crevant, mais voilà. La deuxième chose, c'est de créer des espaces alternatifs, de contre-pouvoir médiatique, de faire du journalisme média, c'est-à-dire c'était mon boulot, c'est-à-dire d'enquêter sur la façon dont les autres journalistes le font, ce qui est fait là, ici, pendant ce podcast-là, c'est-à-dire de raconter, d'en parler. Et en fait, il y a toujours une omerta, en fait, c'est très compliqué pour les journalistes de parler des journalistes, donc du coup, ça fait que on est très peu au courant, et puis moi je le vois par exemple dans mon livre, c'est quand même une grosse partie de mon livre, ce fonctionnement-là, c'est pas du tout ce qui est retenu par exemple dans les articles sur la réception du livre, il y a un gros problème pour en parler, et ça c'est le début de la solution. C'est-à-dire que de toute façon, tant qu'on commence pas à en parler, on va pas pouvoir s'y affronter. Donc c'est déjà vraiment, j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire des articles sur les médias, sur le fonctionnement médiatique. Créer des espaces alternatifs, c'est par exemple ce qu'on a fait en 2013 avec l'association des journalistes LGBT, ou ce que fait par exemple Prenons la Une, ou ce que tout un travail qui est mené aussi sur le décryptage médiatique, c'est ici dans Kif Taras, sur le problème justement de racisme, de biais raciste dans les médias. Il faut, et c'est très intéressant que ça soit fait ou dans les podcasts, ou dans des assos de journalistes à part de rédactions traditionnelles, mais il faut les investir à fond et les jouer à fond, ces espaces-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de la profession elle-même dans son cœur ? Il y a eu récemment un conseil qui s'est créé, qui est un conseil de déontologie, du journalisme et de médiation, qui pour l'instant, je ne trouve pas encore, donne vraiment ses fruits, mais très certainement, il faut réfléchir à des instances, en tout cas, dont le public peut se saisir, c'est-à-dire aussi encourager tout ce qui est de l'ordre de l'interpellation des journalistes par le public, de la possibilité, ou par les militants et militantes, de remettre en cause, en fait, et c'est bien normal, et d'accepter de l'autre côté qu'on rende des comptes. Et pour ça, moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas assez d'instances, qu'il n'y a pas d'ordre des journalistes, c'est compliqué quand même d'aller...
Peut-être que ça peut ne pas passer par cette solution-là, mais en tout cas, je me dis, en tant que journaliste, accepter que son travail soit réexaminé à l'aune de ces grilles-là d'analyse, en fait, de sexisme, de racisme, d'hétérocentrisme et tout, de se dire, est-ce que rien que ça, je me dis que peut-être il y a beaucoup de journalistes qui ne se posent pas de questions sur leur propre pratique, en fait.
Mais absolument.
Donc déjà, il y a un effort d'introspection et d'analyse à faire.
Mais absolument, c'est pour ça qu'il y a deux points de vue. C'est comme un peu pour tout, il y a un effort individuel très fort, très 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 fort à produire, mais il va falloir aussi le faire collectivement. Et ça, c'est notamment aussi dans les ça fait des années qu'ils en parlent, et ils bougent pas les processus de recrutement. Mais moi, je trouve ça scandaleux. Mais ça, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que moi, je veux lire des enquêtes concrètes sur il se passe quoi dans ces rédactions pour que dans des énormes rédactions généralistes, il y a pas une journaliste noire. C'est quoi en fait c'est quoi? Expliquez-nous, rendez des comptes aussi. C'est-à-dire que le problème du fait que les journalistes ne veulent jamais parler des autres journalistes, c'est que du coup, ils ne rendent jamais de compte. Or, je veux dire, si on observe, si on fait des enquêtes sur la politique, sur les finances, sur le sport, c'est bien parce qu'on veut montrer des dysfonctionnements. Et juste d'interviewer des gens, de les faire parler. Je vous parle même pas d'une énorme enquête, même si ces enquêtes-là seraient nécessaires sur la vie des rédactions, sur comment s'est produit l'information. Je parle même pas de ça. Rien que le fait d'appeler quelqu'un, bah, en général, ça veut dire qu'il va se sentir un peu observé en tant que journaliste dans sa façon de faire son boulot et tout ça. Mais très souvent, il n'y a même pas ça. On ne s'appelle même pas entre nous pour savoir, bah, tiens, pourquoi tu l'as traité comme ça, ce sujet-là ? Tiens, mais pourquoi tu as une rédaction qui est complètement blanche ? Tiens, mais et ça devrait, on devrait s'autoriser à pratiquer ce journalisme-là. Et je crois beaucoup à cette possibilité-là pour faire évoluer les choses.
Oui, il y a une question traditionnelle des couilles sur la table que j'aime poser aux invités pour des recommandations qui sont, quelle est l'œuvre d'art que tu souhaites recommander aux auditeurs, Alice Coffin ?
Alors, justement, je développe un peu dans le livre que moi, j'ai du mal avec l'art, que je vois aussi comme une espèce d'excroissance de la masculinité. Et c'est pas du tout pour remettre en cause la question, mais c'est super intéressant qu'elle soit posée comme ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait des sélections ou tout ça, quand on demande des avis, ça va être sur une œuvre d'art. Et moi, je me dis toujours, bah ouais, mais pourquoi pas sur des actions activistes que je considère qui demandent la même création, la même part de tout ça. Et sur pourquoi on met l'art aussi sur piédestal et tout ça. Mais bon, ceci étant dit, du coup, je vais répondre deux choses. Les actions, effectivement, de la BARP, qui sont des créations qu'on peut voir sur le site de
qui a à voir avec la performance artistique.
Et qui sont de la performance artistique. Voilà, c'est pour ça, c'est ça que je veux dire. Et c'est Ava DuVernay, qui est une réalisatrice américaine, qui disait, en fait, les activistes sont des créatrices ou des créateurs comme les artistes, parce que, et conçoit un monde qui n'existe pas encore. Et comment on fait pour un monde où on a tellement d'oppression pour imaginer ce que ça pourrait être et essayer de le changer? Ça demande un effort de création. Et puis sinon, je vais quand même faire un choix amoureux et je vais citer le merveilleux documentaire No Gravity de Sylvia Casalino, qui est ma compagne et qui, mais je le cite pas de manière anodine, c'est parce que ça rejoint tout ce qu'on a dit dans cette conversation, qui est un documentaire, en fait, c'est un film sur les femmes astronautes où elle va interroger des femmes astronautes, l'astronaute femme noire, mais Carol Jamieson des États-Unis et beaucoup d'autres qui ont été volées dans l'espace, mais en réinterrogeant les standards, en fait. La question de, justement, on parlait d'art, mais art et standard, et comment on porte, qui a le droit d'aller dans l'espace, quel corps on doit d'aller dans l'espace, selon quelles compétences. Donc ça rejoint en plus l'ensemble des problématiques dont on a parlé, ça s'appelle No Gravity.
Merci beaucoup Alice Coffin.
Merci beaucoup Alice.
Et moi, je recommande de lire l'essai d'Alice Coffin, Le génie lesbien, qui est, je le répète, un grand essai sur le journalisme, dans lequel, à mon avis, devraient d'urgence se plonger tous les rédacteurs, rédactrices en chef, journalistes, chroniqueurs, éditorialistes et étudiants en journalisme. Je recommande aussi l'écoute du podcast Camille, formidablement bien pensé et monté par les mêmes personnes avec qui j'ai travaillé à cet épisode, c'est-à-dire Camille Regache à la rédaction, Solène Moulin à la réalisation. C'était un crossover entre Camille et Les Couilles sur la Table, qui sont tous deux des podcasts de Binge Audio. Le directeur de la rédaction, c'est David Carzon. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.